cherche, on cherche, on cherche.
Bon, si vous voulez, je vous en donne une autre, mais il faut payer. C'est monétaire.
Hein?
T'es pas sûr? Vas-y, essaye un peu, on va te dire.
Oui, attends, on cherche juste des idées oui, bah, pour, pour le quiz.
Ton icône, ouais. C'est une icône française ou elle est pas européenne?
Française, non. Elle n'est pas française.
Elle n'est pas française.
Elle est
européenne. Il y en a deux.
T'as pas une chanteuse ou...
ah, bah, pas, c'est facile.
C'est une icône. Une icône à nous ou une icône du monde? Non, parce qu'une icône du monde, c'est pas forcément une icône à nous.
Bah oui,
bien sûr. À nous,
ah bah oui, moi je pensais à une icône qui n'est pas forcément à moi, mais c'est une icône du monde.
À moi.
Comment ça?
C'est objectivement une
icône. C'est pas une icône. Moi, c'est pas mon icône. Certainement pas, c'est pas mon icône. Mais toi, t'as quoi comme icône?
Bah, moi j'ai faut que je dise ce que c'est.
Ah bah non, si tu le dis maintenant, c'est perdu. On sait plus.
Mais moi, c'est facile.
Non, mais alors, vas-y. Non,
bah,
non, t'as pas le droit de prendre ta copine. Hein.
Ma copine? Mais non.
Non, c'est pas possible.
Non, ma fille. Non, mais c'est trop facile. Mais bon, c'est une icône, force est de constater.
Et les garçons, c'est la parité. Hein. D'abord, on a dit, hop là, on veut des icônes, des icônes. Allez.
Vous êtes prêts? Féminine du 21e siècle, on peut commencer à deviner la vôtre, Fia Ménard. Il faut nous donner des indices.
Alors attention, je donne des indices.
Celui qui répond le plus vite va gagner.
C'est ça.
Ah ouais. Après, faut vraiment mener le rythme. Alors donc, moi, mon icône, là, comme ça, celle que j'ai trouvée en une minute, parce que j'ai cherché comme ça, et puis d'un seul coup, je me suis dit, ah, il y en a une, elle fait courir en ce moment depuis des mois, là, dans la rue, il y a plein de gens qui courent.
El Khomri.
Oh, trop facile.
Bravo, Anne-James Chaton. C'est à vous maintenant.
Alors la mienne, elle porte souvent des ensembles roses, de couleurs vives.
Ouais, c'est Elisabeth.
On peut déjà trouver.
Bah ouais, c'est la Queen Mary. Non, c'est la Queen Elisabeth.
C'est effectivement la Queen Elisabeth.
Vous êtes très fort en icône du 21e siècle.
C'est dans le train, on s'entraîne.
Nosfell.
Bah moi, c'est ma partie entertainment qui parle. Et force est de constater qu'il s'agit là d'une icône, puisqu'elle est dans la bouche de tous les musiciens, tout genre confondu, elle devient une référence.
La langue.
Et non, vraiment une vraie personne qui fait danser beaucoup de gens.
Elle chante en quelle langue?
Et qui met en scène sa vie en permanence dans ses disques, et ça fascine tout le monde.
Tina Turner.
Elle chante en quelle
langue? Elle chante en anglais.
Tina Turner.
Non.
Rihanna.
Presque. Ah.
T'as dit qui, toi?
Madonna.
Lady Gaga.
Lady Gaga?
Bah non.
Elle est américaine.
Ni Madonna, ni Rihanna, ni Lady
Gaga. Bah non. Bah, c'est drôle que vous ayez pas pensé à elle tout de suite.
Shakira.
Pourquoi?
Pas Shakira. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi.
Il faut un autre indice.
Il faut un autre indice.
Elle a quel âge?
Un titre.
Quel âge elle a, cette femme? Elle doit avoir 32 ans maintenant, c'est une femme, évidemment.
Britney Spears.
Mais non, mais comment ça se fait? Alors, disons, j'ai perdu, alors c'est vraiment pas du tout une icône, c'est étonnant.
32 ans, mais tu sais que nous, on est beaucoup trop vieux.
Les paroles d'une chanson.
Les paroles d'une chanson, elle parle, les paroles d'une chanson, une femme célibataire, pour traduire, je traduis en français, femme célibataire.
Ah, Beyoncé.
Bah, voilà.
Beyoncé.
Non,
on a se fait la gagner.
Objectivement, c'est une icône.
Oui. D'accord. Ah, c'est donc ça une icône.
Oh.
Ah,
Il est 23h et une époque, c'est fait pour défiler. Ça avance, ça ne traîne pas. L'époque, elle va plus vite que nous. Si on se retourne, elle n'est déjà plus là. Nous sommes le 27 juin, c'est la dernière de l'année, on avance et c'est bientôt l'été. Anne-James Chaton attrape l'époque et entre avec elle dans le tunnel. Il écrit avec sujet, verbe, complément, ajouter des mots, ce serait se faire devancer par le temps. Ici, on fait corps avec la date, le lieu, le siècle, quitte à se faire malmener par les événements. On attrape les rênes et à travers 13 femmes, le 20e siècle défile. Ça s'appelle « Elle regarde passer les gens ». C'est un long poème. Ça pourrait s'appeler « Guerre et paix », ça aussi entre les deux comme l'histoire. C'est au présent ou à l'imparfait, dans le temps du vécu et du sentiment. Les phrases commencent toutes par « Elle », pour faire parler les icônes comme il les a ensuite rebaptisées. Elles ne sont jamais nommées, mais on reconnaît par exemple la danseuse Isadora Duncan. Il écrit « Elle parle de la Russie, elle parle de la Révolution, elle parle de Lénine, elle parle de Marx, elle parle du Nouveau Monde, elle est pleine d'espérance, elle est sur le quai. » Il fait coller les instants comme « Elle hèle un taxi, elle traverse la ville », avec l'histoire en plus grand, les utopies, les mélancolies. Virginia Woolf apprend la victoire des travaillistes et un peu plus loin se fait couler un bain. Mata Hari prend une chambre d'hôtel et va se faire arrêter. Il décrit la vie de ces femmes comme un espion, des corps et des sensations. Les chapitres, ce ne sont pas les noms de ces femmes, mais le nouveau siècle, la grande guerre. On peut alors lire « Elle est le 3 août, elle est en guerre. Elle est le 3 décembre, elle est en hiver. » Ou « Elle est le 19 mai 1962. » Chacune devient son lieu et son moment. La vie devient la trace qu'elle laisse sur un calendrier et sur la géographie. Ce sont des tracés, des itinéraires. Qu'est-ce qu'il reste d'une histoire ? Anne-James Chaton aime coller ce qui pourrait rester séparé. Un livre d'histoire, un journal intime, un numéro de chambre ou une plaque d'immatriculation. Il rassemble tout, comme il l'avait fait avec tickets de caisse, factures ou articles de presse. Il fait l'histoire en collant des mots quotidiens et des vies immenses. L'époque, c'est fait pour défiler. L'époque, c'est invisible. Ce sont des mouvements effacés chaque fois par d'autres. Alors pour la dernière de la saison, on peut regarder tranquillement passer l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, les années et les gens. Il y aura donc Anne-James Chaton, poète, plasticien, performeur, qui a publié aux éditions Verticales « Elle regarde passer les gens ». On commencera avec Camille Claudel pour s'arrêter au jour tragique de la disparition de Lady Di. Il en a imaginé une version sur scène, icône, un récital à trois univers avec trois artistes complices, le danseur-chorégraphe François Chéniaud, l'artiste-performeuse Fia Ménard et le chanteur-compositeur Nosfell. On commencera donc par un début de siècle.
Elle regarde passer les gens. Elle est assise sur un banc. Elle lit le journal. Elle lit l'aurore. Elle découvre la lettre d'Émile Zola. Elle n'est pas d'accord. Elle est convaincue de la culpabilité de Dreyfus. Elle ne changera pas d'opinion. Elle retourne à son atelier. Elle travaille à un plâtre. Elle a achevé le modelage de l'argile. Elle a laissé sécher la terre. Elle prépare le moule. Elle attend la visite de l'inspecteur du ministère. Elle lui présente sa composition. Elle souhaite réaliser la pièce en bronze. Elle est à court d'argent. Elle sollicite une aide de l'État. Elle l'obtient. Elle ne la recevra pas. Elle ne peut plus avancer. Elle n'y tient plus. Elle écrit au ministère. Elle s'adresse directement à Henri Roujon. Elle le rappelle à ses engagements. Elle a répondu à une commande publique. Elle a presque achevé l'œuvre. Elle a déjà dépensé 2000 francs. Elle demande le solde. Elle mentionne le nom d'Auguste Rodin. Elle s'adressera à lui en cas de refus. Elle reçoit une réponse positive. Elle sera payée. Elle participe à un salon. Elle expose trois sculptures. Elle montre le marbre de Clotot. Elle présente le buste de la comtesse de Maigret. Elle dévoile une étude de l'âge mûr. Elle reçoit une lettre du ministère des Beaux-Arts. Elle ne percevra pas la somme d'argent promise. Elle est furieuse. Elle ne comprend pas. Elle a honoré sa part du contrat. Elle soupçonne une manœuvre de Rodin. Elle a avancé le moulage. Elle est en difficulté. Elle ne peut plus payer son loyer. Elle doit quitter son atelier du boulevard d'Italie. Elle cherche un appartement. Elle trouve un petit rez-de-chaussée sur l'île Saint-Louis. Elle emménage au 19 quai Bourbon. Elle se remet à la tâche. Elle est penchée sur un marbre. Elle chantonne. Elle s'attelle au personnage masculin. Elle burine. Elle boucharde. Elle gradine. Elle taillade. Elle trépane. Elle râpe, elle lime, elle polie, elle est couverte de poussière, elle est gracieuse, elle est farouche.
Point dans vos mémoires improvisées que sur lequel j'aimerais attirer, si vous le permettez, une seconde aujourd'hui votre attention, c'est celui qui concerne, disons, les dangers de la vocation artistique telle que vous la considérez.
Ces dangers ne sont que trop visibles pour moi. J'ai rencontré, comme je vous le disais tout à l'heure, à la rue de Rome, chez Mallarmé. J'ai rencontré Villiers d'Adam, j'ai d'autre part causé avec Verlaine, et j'ai lu tous ses souvenirs de la vie littéraire dans Baudelaire, dans Gérard de Nerval et de bien d'autres. Et enfin, dans ma propre famille, j'ai eu un exemple terrible en la personne de ma sœur Camille, qui était une femme de génie, d'une beauté et d'un talent extraordinaire, et qui n'a rencontré que le désespoir et finalement la folie. En conséquent, je crois que les vers que Baudelaire, par lesquels Baudelaire a ouvert son livre Les fleurs du mal, dans lequel il parle de cette malédiction qu'est la vocation littéraire, ne sont malheureusement que trop vrais. Et il ne faut pas s'étonner si les parents d'autrefois en avaient une salutaire terreur. Peut-être que maintenant cette terreur s'est atténuée, mais il faut dire que le talent littéraire s'est également atténué.
Paul Claudel parlait des dangers de la création littéraire et évoquait sa sœur Camille Claudel. Anne James Chaton, elle regarde passer les gens, c'est beaucoup aussi sur le processus de création, sur la création et parfois ses dangers, ou en tout cas ses doutes, ses difficultés.
Au travers de certaines des femmes qui sont évoquées, ça l'est effectivement. Mais il n'y a pas que des artistes à l'intérieur du livre. Donc le fait créateur est une des données d'elle regarde passer les gens. Ce n'est pas la seule.
Il y en a quand même pas mal. Et quand je pense à la création littéraire, je pense par exemple à Virginia Woolf, qu'on reconnaît assez rapidement parce qu'on parle des vagues. Est-ce que, si on parle du mouvement et de l'écriture, pour la définir, cette écriture, la vôtre, vous prendriez quelle forme ou quel mouvement? Est-ce que les vagues, ça irait bien, ou qu'est-ce que vous choisiriez?
Quelle forme d'écriture
pour décrire la vôtre, dont elle regarde passer les gens.
C'est toujours très délicat de caractériser sa propre écriture. Si je prenais une référence, ce serait peut-être moins Woolf et les vagues. Je me sentirais plus proche d'un rythme d'écriture tel qu'on peut le trouver chez Beckett, par exemple, chez le Beckett tardif. On a un effet véritablement d'accélération dans l'écriture. De coupe et d'accélération dans l'écriture de Beckett. Donc je serais plus à cet endroit-là, notamment aussi sur le caractère très, très brut et très factuel du dernier Beckett.
François Chéniaud, Nosfell, Fiaménard, est-ce que, pour parler du rythme de la langue, vous auriez-vous d'autres mots à ajouter ?
Au départ, quand Anne James m'a proposé son texte, je lui ai dit que je voulais le chanter, et j'étais assez certain que j'allais réussir à le rapper, à le chanter, à en faire. Et en fait, c'est vrai qu'après 2 heures de m'être enfermé dans une cuisine à essayer de le chanter et n'avoir chanté qu'une page et demie, j'ai compris que c'était un rythme pour lequel, c'était un rythme qui n'était pas dans une musicalité mélodieuse, peut-être une musicalité plus, plus martelée, plus parlée, qui n'est pas non plus dans celle de l'accélération du rap, qui est quelque chose de vraiment déclaratif.
Très litanique, oui, c'est une écriture qui est très litanique. Et quand François, quand on a commencé à discuter avec François très rapidement, il m'a fait part de cette résistance que le texte pouvait avoir quand il s'agissait d'aller vers le chant, moi-même n'étant absolument pas chanteur. Et dans mon écriture, bien sûr, je parle ma langue au moment où je l'écris, et jamais j'imagine de pouvoir la chanter. Et c'est là où le travail de réécriture s'est engagé avec Nussfeld sur comment est-ce que, sur cette prose, on pouvait à un moment donné en extraire quelque chose qui pourrait aller vers le chant. C'est plus la même écriture, pour le coup.
Vous êtes posé quelles questions, Nussfeld, par rapport à ça, comment on chante une écriture ou comment on la transpose ?
En fait, je pense que ce qui nous a un peu bloqué quand on s'est retrouvé avec François aussi dans la fameuse cuisine où je l'ai laissé tout seul avec le magnétophone comme ça, je pense que c'est le simple fait que les phrases commencent par elle systématiquement. Ça, au bout d'un moment, ça crée une muraille, ça a une espèce de comme ça presque instantanément. Hein. C'est hyper dit, c'était très compliqué de fondre cette forme-là de phrase qui est systématiquement la même. Sujet, verbe, complément, dans une écriture musicale où le but était de chanter, de donner de la voix.
Oui, alors que nous,
Fieménard,
la prise très brute finalement du texte était tout de suite intéressante avec Anne James. Bon, déjà parce qu'on avait déjà une expérience ensemble, on avait écrit une pièce déjà ensemble. Moi, peut-être justement le fait que ça commençait par elle directement, à chaque fois, c'était la possibilité en effet d'une vague. Et à chaque fois de faire quelque chose de très éphémère, donc dans la forme même qui, lorsque Anne James m'a proposé de dire « Tiens, j'aurais que tu te consacres aux premières, donc Camille Claudel et Mata Hari », tout de suite c'était l'idée que c'était des personnages dans l'ombre, finalement c'est des icônes de l'ombre, c'est celles qui ont été noyées dans l'histoire. Et si on posait la question à un passant, tu pourrais décrire Mata Hari, personne ne pourrait le faire, ou Camille Claudel. Donc on n'en a qu'une idée, c'est un nom. Donc quelque part, j'avais cette possibilité d'incarner d'une certaine manière ces corps. Et ça a été tout de suite la prise en main de se dire, à chaque fois que ce « elle » sera prononcé, ce sera moi. Donc il y a aussi une forme pour moi qui m'intéresse, c'est-à-dire d'un seul coup de ramener, apporter une peau... une peau un peu facile, peut-être, parce qu'en effet, se mettre dans la peau de Camille Claudel sous la forme d'une couverture et sous la forme très presque sculpturale, l'écriture devient alors une base très monotone, mais qui laisse une très grande place à l'imaginaire. Donc pour moi, c'est un champ, c'est un horizon.
Et Camille Claudel, justement, dans votre imaginaire, ça correspondait à quoi ?
Ça a tout de suite correspondu à cette question de quelqu'un qui s'est battu, notamment, puisque quand on lit un peu son histoire, et puis là, la suite de sa vie. Là, vous nous avez fait écouter Paul Claudel, on voit bien qu'elle a subi, finalement, même là, en écoutant Paul Claudel, on dit qu'elle subit, finalement, l'épreuve du pouvoir des hommes, qui l'ont regardé comme une chose très bizarre. Alors j'en ai... Pour moi, tout de suite, j'ai une forme de sympathie pour cette femme. Donc tout de suite, une forme aussi de dire, si elle pouvait ressortir de la terre, puisqu'elle travaillait la terre, alors elle sculpterait la terre par en dessous, par l'intérieur, et comme si elle pouvait sortir de ce sol. Donc j'ai recréé finalement une forme où, partant d'un simple tissu posé sur le sol, d'en faire des vagues comme une matière, et finalement cette matière devient le revenant, presque. C'est le revenant de Camille Claudel. Donc pour moi, c'était de la faire revenir.
C'est un travail sur qu'est-ce que l'archive, qu'est-ce que la mémoire, qu'est-ce que notre mémoire collective a retenu de ces femmes et de leur œuvre. It could be fantasy. De Mata Hari, qui est Mata Hari en danseuse, c'est-à-dire la pré-Mata Hari, on va dire. Lorsqu'elle est encore sur les scènes d'Amsterdam et de Paris, et qu'elle mène cette carrière de danseuse.
Ouvrez ! Ouvrez, j'enfonce la porte !
Mais la porte n'est pas fermée ! Entrez ! Si cela ne vous gêne pas de pénétrer dans la chambre d'une dame.
Police !
Vraiment, on ne le dirait pas. Vous devez vous tromper de chambre.
Vous êtes bien la danseuse Mata Hari?
Oui.
J'ai ordre de vous arrêter.
Arrêtez.
Vous êtes prévenu d'espionnage, complicité, intelligence avec l'ennemi dans le but de favoriser ses entreprises.
Je ne comprends pas.
Le mandat est signé du capitaine Bouchardon.
Bouchardon.
Capitaine rapporteur au conseil de guerre. Troisième conseil de guerre.
Mais quelle est cette histoire? J'appartiens au service secret de l'armée française.
Parbleu, ce sont eux qui m'envoient.
Qui vous envoient? Vraiment. C'est trop drôle. Oh, inutile de vous retourner. Vous ne me gênez pas. Je danse nu. Alors, que vous soyez 3 ou 1000, ça ne me gêne pas. Monsieur le commissaire, une crotte en chocolat?
Non, merci.
Ah, si, si, elles sont délicieuses.
J'ai également ordre de perquisitionner chez vous.
Mata Hari, Anne-James Chaton, vous l'écrivez comme un espion suit son objet, son sujet. Vous l'écrivez vraiment comme une,
ah oui,
comme une enquête.
Je me mets à la place du policier. Je deviens policier quand j'écris le texte sur Mata Hari. Je pense que Mata Hari, quand elle a été arrêtée à son hôtel, elle était beaucoup plus inquiète que ce qu'on a pu entendre.
Que le ton de Françoise Fabian,
ah oui.
La crotte en chocolat.
Oui, elle était déjà plus danseuse nue. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait pris cet engagement auprès des services secrets français. Mais oui, effectivement, je deviens pas policier, mais c'est vrai que pour toutes les femmes qui sont montrées dans le livre, c'est une monstration, ça, de toute façon. Je les suis au plus près, j'essaie de les regarder au plus près de leurs actes, que ce soit des actes considérés comme quotidiens ou des actes qui, par la suite, ont pris sens d'un point de vue plus collectif. Mais c'est d'abord la vie quotidienne, les intentions de ces femmes qui vont éventuellement, à un moment ou un autre, générer un sens qui sera un sens qu'on partagera. Je pense à ça notamment sur leurs différents endroits de transformation de leur époque.
François Chéniaud, la figure par exemple d'Isadora Duncan, vous la connaissez bien. en la lisant dans la langue et le manuel d'histoire d'Anne James Chaton, est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues?
Oui, parce qu'en fait, je me méfie toujours d'Isadora Duncan et de son statut iconique. Parce que bon, l'histoire des femmes, l'histoire de la danse encore plus, elle se résume souvent à quelques icônes qui sont comme justement aussi une manière de s'aveugler pour ne pas voir la multitude encore plus impersonnelle, anonyme et invisible. Du coup, par rapport à Isadora Duncan, j'étais toujours très fasciné et en même temps suspicieux de pourquoi une telle aura l'entoure, comme si c'était la seule danseuse qui avait désiré la liberté, désiré danser pieds nus. Et voilà, donc effectivement, en lisant, je ne sais pas si j'ai appris, mais il y a 100 ans des détails desquels je ne m'étais pas approché auparavant, un peu par cette inquiétude par rapport à son statut iconique.
Et on la voit, on la sent complètement entre deux continents, entre deux pays, dans l'écriture d'Anne James Chaton.
Ouais, plus que deux continents, elle a vraiment voyagé d'ouest en est, quoi.
Est-ce qu'on peut lire un petit extrait ?
Elle aperçoit le Kremlin. Elle se rend au commissariat du peuple à l'instruction publique. Elle demande à parler au camarade Lunacharsky. Elle est introduite dans la salle d'attente. Elle regarde les photos accrochées au mur. Elle remarque le portrait de Lénine. Elle examine le portrait de Léon Trotsky. Elle scrute le portrait d'Alexei Rykov. Elle découvre le portrait de Georgi Vassilievitch Tchitcherine. Elle contemple le portrait de Friedrich Engels. Elle admire le portrait de Karl Marx. Elle est reçue par Lunacharsky. Elle lui présente son projet d'école. Elle est enthousiaste. Elle pourra s'installer dans le palais d'Alexandra Balachova. Elle était danseuse étoile. Elle travaillait au ballet impérial. Elle a fui la Russie. Elle s'est exilée à Paris. Elle est au début du mois d'août. Elle visite le palais. Elle trouve un édifice vide. Elle doit tout aménager. Elle ne se décourage pas. Elle y travaillera durant l'été. Elle est en novembre. Elle est invitée à se reproduire au Bolshoï. Elle y fêtera l'anniversaire de la Révolution. Elle danse la 6e symphonie de Tchaïkovski. Elle est applaudie, elle est félicitée par le gouvernement, elle a conquis le peuple russe.
Ça, par exemple, c'était dur à chanter, François Chéniaud.
J'ai même pas été si loin.
Dans la cuisine, ouais. Comment vous avez imaginé alors votre partition ?
En fait, j'ai d'abord imaginé que je voulais en faire un récital. Ensuite, avec Nosfell, on s'est vu, on a essayé d'imaginer quel type de musique on voulait créer. Et ensuite, Anne James m'a proposé une robe. Et ensuite, Fia et Eric Houillet m'ont proposé de me suspendre. Et j'ai tout accepté avec beaucoup de...
Il est très sage, François.
Elle est comment, la robe ?
C'est une trop copie, belle. Un pastiche d'une robe que porte Marlène Dietrich dans un film d'Hitchcock.
Le Grand Alibi. Bah, je regardais ce film, parce que je me suis remis en tête tous les Hitchcock. Et je tombe sur Le Grand Alibi et je tombe sur Marlène Dietrich. Et quand je vois Marlène Dietrich, eh ben, je vois François dans l'icône. Je me suis dit immédiatement, c'était à cet endroit-là qu'on pouvait aussi, sur un travail proprement d'image pour le coup, en faire... apparaître une comme une apparition, effectivement, François apparaît suspendu, qui allait nous faire traverser trois autres époques, qui sont celles de Duncan, de Wolfe et de Claude Quin.
Est-ce qu'on peut écouter ce que vous avez composé pour Isadora, en ayant Marlène Dietrich en tête, pour les auditeurs?
Déshabillée. Alors, Marlène Dietrich, alors pendant que François va au micro, je vais décrire Marlène Dietrich qui est dans un déshabillé de soie blanc.
Là, il est bleu.
Déshabillé de soie blanc, avec des plumes.
J'ai vu le monde entier, les berges, les bois et les buttes, les rives de la mer Égée, navire, les monts escarpés de l'Oural. Adieu, mes amis, je vais à la gloire, au Panthéon des arts, m'en vais voir l'oracle du dieu à la cithare. J'ai dansé Narcisse et les Amazones, sous la choque les révoltés rouges de Moscou. J'ai dansé la prêtresse et les furies, cela troubla Samarkand, Tashkent et Bakou. J'ai dansé, dansé, dansé les pétales et j'ai dansé les mazurkas. Cela choqua les bourgeois, bien pensants de Boston. Adieu, mes amis, je veux à la gloire, au Panthéon des arts, m'en vais voir l'oracle du dieu à la cithare.
Anne-James Chaton, c'est quoi une icône? C'est la question qu'on se posait au début quand on cherchait à se faire deviner une icône du XXIe siècle. Mais
bah, c'est icône, quoi, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on, on ne sait pas ce que c'est qu'une icône. Alors, pour ma part, j'aurais pas de réponse à donner, donc c'est plutôt une façon d'interroger.
Ces espèces de figures comme ça qui ondulent, qui ondoient comme ça dans la mémoire de chacun et qu'on convoque quand on a, quand on pense à une chose ou une autre, on convoque comme ça dans nos mémoires une.
Mais qui reste toujours flou et qui est.
Qui est représentatif de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de ce dont on est témoin, peut-être, c'est ça une icône.
Qu'on partage sans la partager aussi.
Ouais. Oui.
Parce que de l'un à l'autre, elle se déplace.
C'est difficile d'être objectif.
Elle n'a pas les mêmes contours.
Je trouve que
je pense aussi que les icônes, elles sont intéressantes en tant que telles, mais c'est surtout qu'elles, par quel procès parfois, elles deviennent icônes. Et ça parle surtout du monde qui transforme certains en icônes. Et c'est en isolant leur figure, on entend plutôt le monde et c'est. Et ces aberrations, ces beautés, ces injustices, et c'est ça que j'entends dans l'icône. C'est pas le talent exceptionnel d'un tel ou un tel, c'est plutôt comment la société sécrète certaines icônes, et du coup
on efface d'autres.
En rendant invisibles des millions de vies.
Surtout que les icônes qui sont vraiment là traitées sont quand même... des icônes de l'hémisphère nord. C'est-à-dire c'est en plus donc des icônes blanches, donc la manière dont la société en elle-même blanche traite de ce sujet-là, c'est-à-dire comment elle met en évidence certaines personnes et n'en mettra pas d'autres. Ce serait presque intéressant de dire tiens, maintenant il faut faire le sud. Alors est-ce que c'est à nous de faire le sud? Je sais pas, mais
ça c'est une vraie réalité, parce que j'ai cherché un temps à déplacer en termes continental, en termes de là où l'histoire peut aller ailleurs. Et ça a été assez compliqué, parce que j'avais des personnages qui m'apparaissaient, mais la matière me manquait, tout simplement, en termes de biographie, de documents stricts.
C'est symptomatique.
Je me suis replié sur l'Occident, parce que j'ai vraiment eu une difficulté à passer cette frontière-là.
Et pour moi, ce spectacle, justement, en isolant les icônes, il fait surtout entendre les silences, celles qui sont silencieuses. Et l'histoire du bruit, c'est pour mieux entendre le silence.
Premier morceau, Nosfell, c'est la chanson de Jackie.
C'est ça. C'est quand même sa chanson. Ah oui. Alors, Nosfell dans Backstage d'Aurélie Charron sur France Culture.
Before the first lady flees.
umbrella man, who shields the walkie-talkie man, who over and out the school book man, who forgets about the fifth stage man. Before the first lady cries, before the first lady cries, before the first lady pauses, before the first lady.
Vous savez certainement, madame, que les jeunes filles des États-Unis, un très grand nombre, cherchent à vous ressembler, à se coiffer comme vous, à se maquiller comme vous et à copier vos robes. Qu'en pensez-vous?
Je lis ça dans les journaux, mais vraiment, je crois pas que c'est vrai. Quand je me promène, je ne vois pas des filles.
Ah, vous croyez que ce sont les photographes de presse qui recherchent des jeunes filles qui vous ressemblent?
Oui, je crois.
Non, je crois quand même que vous avez, en très peu de temps, puisque vous êtes à la Maison Blanche depuis 4 mois, créer un style qui marque la jeunesse américaine, comme le président lui-même a marqué un style. Cette Maison Blanche est absolument méconnaissable. Quand on se promène dans les couloirs, dans les bureaux, services de presse, on rencontre des jeunes gens, des jeunes filles très jeunes, très dynamiques. Il y a une atmosphère très, très différente.
C'est bien de s'entourer de la jeunesse. Ça vous donne un peu de force les jours quand on est fatigué.
Ménard, il y a aussi beaucoup, on en parlait tout à l'heure, d'épreuves dans la vie de ces femmes, en tout cas liées aux événements historiques, parce que la guerre traverse le siècle, mais aussi à leur propre création, à leur propre vie personnelle, privée, parce que justement elles dépassent un peu les limites, ou elles cherchent à pousser les limites de leur pouvoir, de leur place de femme. Est-ce que ça, c'est un des endroits où vous avez travaillé, Fia Ménard, sur...
Bien sûr. Moi, je dirais que dès que je... À la lecture et finalement le choix de toutes ces femmes, elles portent, bon, peut-être plus particulièrement, c'est vrai, ayant travaillé beaucoup là sur Camille Claudel et Mata Hari, sur une évidence de vouloir exister, c'est-à-dire d'avoir la liberté d'être comme elles veulent. Et je crois que c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que, voilà, en écoutant ou en lisant les... l'histoire de Camille Claudel, au-delà de ce qu'on pourrait appeler une paranoïa qu'elle peut avoir développée, il y a quand même avant tout quelqu'un qui a essayé de se faire sa place et d'exister en tant que telle, sauf que c'est pas la place qu'on réserve aux femmes. Alors il y a un côté pour moi de regard féministe à cet endroit-là, qui est simplement de dire mais moi aussi j'ai la possibilité d'être créatrice. C'est le cri de Camille Claudel. Et on lui reconnaît, mais on lui reconnaît en suspension. Alors que Mata Hari, finalement, on s'en sert. C'est-à-dire qu'elle croit dominer le jeu et en fait, elle espère pouvoir dominer le jeu. Elle espère pouvoir faire partie du jeu du pouvoir. Et c'est là où on voit bien qu'à chaque fois, ça revient quelque part, la masse, le pouvoir patriarcal reprend le dessus.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, love. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you, love. Papa, my goodness, fire.
Alors c'est une autre voix, c'est Ellen Cain, une des premières qui a chanté I Wanna Be Loved By You, c'était en 1929. C'est pas la voix de Marilyn, mais c'est une autre voix de femme trouvée par notre réalisateur Lionel Quentin. Est-ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai cherché pour ces 5-6 années, c'est le manuel d'histoire qui a guidé l'avancée. Est-ce que vous avez avancé chronologiquement ?
Non, je n'ai pas avancé chronologiquement. J'ai commencé par travailler sur un certain nombre de figures que je voulais trouver dans le livre. Et ensuite, je suis allé chercher d'autres personnages selon qu'il me fallait écrire une époque. Puis j'ai eu aussi des conseils de gens à qui je parlais du livre, qui me disaient, tiens, va voir. Notamment, j'avais pas du tout au départ pensé à Claude Quin. J'étais particulièrement dans quelque chose dont je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas du tout et que ça résistait pour beaucoup de raisons. J'avais commencé à travailler sur Eva Braun et ça ne convenait pas à ce que je voulais, moi, que ce livre raconte. Et puis j'ai rencontré un ami qui me dit, mais est-ce que tu connais le... Je connaissais mal l'œuvre de Claude Quin, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai redécouvert, vraiment.
Et les uns les autres, vous ajouteriez qui à la liste des icônes ? Vous parliez tout à l'heure de certaines qui pourraient être oubliées. Et on a mis un certain temps à trouver des icônes du 21e siècle au début de l'émission.
Moi, j'ai triché parce que je me suis rendu compte à la fin de l'écriture du livre que la reine Elisabeth n'était pas en permanence là. C'est-à-dire depuis le moment où Jackie Kennedy la croise à Londres en rentrant de son voyage en Inde, Elisabeth, elle est là jusqu'à la mort de Lady Di. Mais elle est encore vivante au 21e, donc j'ai un peu triché.
Ouais. Il y en a, je pense, des auteurs. Je pense qu'il y a quand même des grands auteurs, des femmes auteurs, des militantes qui n'y sont pas.
Ah, ajouter des femmes du 20e, j'ai pas compris.
Ouais, du 21e. Non, du
20e. Ah, du 20e.
Du 20e ou du 21e, la suite pour vous, à quoi ça ressemble ?
Moi, j'ai travaillé sur beaucoup sur d'autres femmes, mais il se trouvait que le rythme du livre m'empêchait, par exemple, de travailler. Ben, on l'a cité tout à l'heure sur Marlène Dietrich, parce que la présence au monde de Marlène Dietrich sur le 20e, elle était trop envahissante. J'aurais dû faire 50 ans sur Marlène Dietrich, donc ça fonctionnait pas. J'ai aussi, à un moment, travaillé sur une longue série de ces femmes qui sont rentrées en politique, notamment dans les années 70, en travaillant sur Golda Meir, Indira Gandhi, pour ensuite arriver sur Thatcher.
Elle est revenue plusieurs fois, non, dans votre travail.
Ouais, Thatcher, elle finissait La vie des hommes illustres. C'est pour ça que je voulais la garder pour la traiter à nouveau. Et je me suis rendu compte que ça faisait un... Là, c'est pareil, ça faisait un... tunnel de lecture où ça crée une ligne très très dure dans le texte et donc j'ai dû les soustraire par la suite, mais il y en avait beaucoup d'autres, ouais. Et j'avais, alors c'est un coup de chance, à un moment j'ai eu un trou entre Janis Joplin et Margaret Thatcher. Il me manquait 5-6 ans, je me suis dit, mais qui c'est que je vais trouver en 6 ans, qui en 6 ans, voilà, raconte quelque chose de...
Tu pourrais faire Pina Bausch.
Du monde. Oui, Pina Bausch. Et je suis tombé, c'est peut-être des souvenirs d'adolescent, je suis tombé sur Sylvia Kristel. Et c'était parfait. Hardly daring to move, it's so beautiful.
On écoute une balade, Nosfell ?
Oui.
Alors le titre ? Norma Tosca Violetta.
Prêtresse des manes de Gaulle, au cœur rongé par l'infidèle romain Pollione, qu'as-tu fait passion.
C'est la dernière page, c'est la fin du siècle.
Oui, la fin du siècle et la fin du livre. Elle atterrit au Bourget. Elle monte dans une voiture. Elle est prise en chasse par des paparazzi. Elle roule en direction de l'hôtel Ritz. Elle se gare place Vendôme. Elle emprunte l'entrée de service. Elle monte dans la suite impériale. Elle se repose. Elle ressort de l'hôtel. Elle se dirige vers les Champs-Élysées. Elle s'arrête rue Houssaye. Elle a été repérée par les paparazzi. Elle monte dans l'appartement de Dodi. Elle en ressort. Elle remonte en voiture. Elle prend la direction du restaurant chez Benoît. Elle doit y renoncer. Elle est suivie par une quinzaine de scooters. Elle rentre au Ritz. Elle est accueillie par une douzaine de photographes. Elle se précipite dans le restaurant de l'hôtel. Elle s'assoit à une table de l'Espadon. Elle commande un turbo rôti aux algues séchées et aux petits légumes de saison. Elle repasse un instant dans sa suite. Elle se fait un brushing. Elle boit un verre de champagne. Elle appelle le Daily Mail. Elle discute avec Richard Kay. Elle descend. Elle sort du côté de la rue Cambon. Elle porte un pantalon blanc. Elle a revêtu un haut de soie. Elle est vêtue d'une veste noire. Elle est surprise par trois paparazzi. Elle s'engouffre dans une Mercedes classe S280. Elle quitte la rue Cambon. Elle tourne dans la rue de Rivoli. Elle roule à 150 km/h. Elle est poursuivie par une vingtaine de scooters. Elle traverse la place de la Concorde. Elle s'engage sur le cours de la Reine. Elle monte à 180 km/h. Elle pénètre dans le tunnel du pont de l'Alma. Elle accélère. Elle roule vite. Elle roule trop vite.
Siècle dernier pour arriver au nôtre, des traces de l'histoire pour en faire un poème. Icône de Anne-James Chaton avec Fia Ménard, Nosfell, François Chéniaud. Ce sera les 19 et 20 août au Festival d'Aurillac et puis ensuite il faudra attendre janvier pour aller à Amiens. C'est la fin de la saison. Avant la nuit, je dis infiniment merci à Boris Pinault qui avec moi imagine l'émission, cherche les archives, à Lionel Quentin qui réalise ce soir, à Delphine Lemaire qui réalise quand ce n'est pas Lionel, aux techniciens qui disent toujours oui à nos idées de mettre un micro à terre ou en haut ou en bas ou ici ou là en studio, et à la technique ce soir, merci à Philippe Bredin et Ludovic Auger. Backstage a pris le relais cette année de l'atelier intérieur. Nous revenons en septembre, d'ici la belle été, à l'écoute de France Culture. Bientôt, il sera minuit. Une époque, c'est fait pour défiler, ça avance, ça ne traîne pas. C'est déjà presque l'été, c'est déjà presque demain, et c'est l'heure des nuits.